Bienvenue sur Flux Audio, votre podcast dédié à l'art contemporain.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez comme à l'habitude Jean-Marc Reichardt derrière le micro. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de ce podcast de Flux Audio réalisé toujours par Damien Dupont. Alors aujourd'hui dans ce numéro, nous allons revenir sur un échange qui a commencé dans les colonnes de Flux News fin décembre. À ce moment-là, j'ai donc publié un texte intitulé « La trahison libérale ». Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Skoz. Benjamin, bonsoir.
Bonsoir.
Benjamin, vous êtes une figure singulière de la scène culturelle belge, musicien, compositeur, producteur, graphiste, auteur et éditeur. J'ai peut-être oublié quelque chose. Vous développez depuis plusieurs décennies, Benjamin, un travail qui traverse les disciplines, tout en revendiquant bien sûr une grande indépendance, c'est l'objet notamment de notre discussion aujourd'hui, vis-à-vis des circuits traditionnels de légitimation artistique. Je dirais, alors on va se tutoyer, Benjamin, voilà, parce qu'on se voyait dans les émissions antérieures, mais faisons œuvre de, je dirais, proximité, hein. Tutoyons-nous si tu veux bien.
Avec grand plaisir.
Magnifique. Et en réponse à mon article, Benjamin, tu as publié, à l'époque, il me semble que c'était début février, si je ne me trompe, un texte sur ton nouveau site. Et ce texte est intitulé, il est toujours disponible à la lecture, il est intitulé « Créer sans centre », dans lequel tu affirmes que l'art n'a jamais eu besoin d'un centre de validation ni de marché quelconque pour exister. Alors, ces deux visions du présent artistique qui semblent, peut-être comme ça de prime abord, quand on les regarde en surface, ces visions s'opposer, mais qui, je pense, se rejoignent aussi sur certains points, et on va en discuter aujourd'hui. Je suis très content que tu sois là pour en parler avec moi.
Oui, c'est-à-dire que j'ai effectivement lancé un nouveau site internet, benjaminskoz.co.uk, qui était déjà une adresse que j'avais depuis longtemps, mais j'ai réactualisé un petit peu tout le travail transversal que j'ai fait ces dernières années pour le rendre un peu plus aussi lisible. Et une partie de ce site s'appelle Fragments, et j'ai repris aussi une série d'articles assez divers. Ça traite aussi bien la musique que les arts plastiques, que des politiques culturelles. Enfin, c'est des réflexions, voilà, de 5 années. Et je trouvais que c'était une place, justement, parce que j'ai lu ton article avec beaucoup d'intérêt, et je trouvais que c'était intéressant, justement, d'y répondre sur cet espace, quoi. Et bon, le texte n'est pas très long, hein, je pense, mais voilà, il remet un peu ma pensée, quand même.
Tout à fait. C'est une sorte de blog, hein, c'est ça, ton site.
C'est un blog, oui. Fragment, c'est le blog, oui.
Voilà, c'est ça. C'est des pensées, des réflexions très étayées. Et donc, effectivement, tu répondais à ce texte que j'avais écrit, donc, à l'époque, qui s'appelle « La trahison libérale ». Alors, effectivement, je ne vais pas le lire parce qu'il est long, référencé. Je l'ai relu exprès pour ce numéro du podcast et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je taille avec, oui. Oui, avec le recul. Mais je suis toujours, heureusement, d'accord avec ce que j'ai
encore bien, oui.
à l'intérieur. Alors, je vais un peu le résumer. Hein. Dans ce texte, je défends l'idée que l'art conceptuel a longtemps été le langage culturel du libéralisme. Alors ça, également, on va en discuter, on va y revenir, même si ce n'est pas du tout l'angle d'attaque de ton texte. Alors, je valorise aussi l'idée que la dématérialisation du support, du substrat, de l'objet plastique qu'est la sculpture, la peinture, l'installation, est en symétrie avec la dématérialisation de la monnaie et des échanges. Voilà, ça c'était mon idée de départ. Et je dis donc que l'art contemporain, tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, cynique, comme tu le dis, méta, une espèce de néo-pop-art comme ça qui critique le système lui-même et qui fonctionne comme ça en vase clos, tu le dis très bien également, il est plus du tout à la mode avec la nouvelle variante du néolibéralisme qu'on connaît, qui est devenue, selon moi, autoritariste, limite dictatoriale à certains endroits, et utilitariste, et donc qu'il jette le bébé avec l'eau du bain, et donc qu'il fait la nique, si j'ose dire, à ses propres rejetons. Alors, je dis également que les artistes formés donc à ce modèle se retrouvent aujourd'hui précarisés et marginalisés, et j'estime que cette crise, c'est pas une crise seulement esthétique, mais aussi une crise politique. Et c'est cette rupture du pacte implicite entre l'art et le capital qui est celle qu'on voit à l'heure actuelle. Et je finis sur cette idée de la figure de l'artiste entrepreneur. Et je dis qu'elle ne constitue pas une issue véritable Donc voilà, essayer de partir directement du producteur au consommateur, c'est une nouvelle soumission, hein, et c'est donc la soumission au desiderata d'un marché atomisé. Je conclue avec cette idée d'artiste voyant, hein, je vais un peu parler de transcendance, du caractère sacré de l'art, et c'est un voyant, l'artiste selon moi, qui est capable d'imaginer d'autres horizons. Alors, je vais me permettre de lire ton texte en réponse à ce résumé un peu, peut-être un peu long, mais je pense nécessaire.
C'est assez touché d'ailleurs d'entendre mon texte lu mais par ta voix, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre ces textes lus par quelqu'un.
C'est très gentil, je le trouve vraiment très bon, ton texte, quand je l'ai évidemment découvert sur ton blog. Et lui, assez justement... synthétique et efficace, si on peut utiliser un adjectif. Alors, il s'appelle « Créer sans centre ». C'est le 8 février 2026, et tu dis « On parle beaucoup aujourd'hui de la marginalisation des artistes, comme si l'art avait été abandonné par le marché, comme si une promesse avait été trahie. » Alors ça, c'est une réponse directement à mon titre.
En fait. Tout à fait.
« Cette lecture suppose pourtant que l'existence artistique passerait nécessairement par la vente, la visibilité marchande ou une validation centrale. C'est une hypothèse que je n'ai jamais partagée. Cela fait, et donc c'est toi qui parles, cela fait 28 ans que je crée. Je n'ai jamais conçu une œuvre pour un marché, ni pour la vente, ni même pour en commenter les mécanismes. Et pourtant, j'ai toujours pu exister, travailler, rencontrer des publics, inscrire mon travail dans des lieux et des contextes variés. Cette durée m'a appris une chose essentielle. Le marché n'est pas un fondement de l'art, mais un effet possible. Il n'est pas un lieu ontologique. Il ne dit rien de la nécessité d'une œuvre, ni de sa capacité à faire expérience. Si certains artistes se sentent aujourd'hui relégués, c'est peut-être parce qu'ils continuent à se penser à partir d'un centre qui, lui, n'existe plus. L'art ne s'est pas retiré, il s'est déplacé. Il est devenu diffus, transversal, disséminé. Il circule dans des espaces hybrides, dans des pratiques partagées, dans des formes numériques accessibles, mais aussi dans le retour très concret à des lieux analogiques, physiques, où l'on se rencontre hors des connexions permanentes pour retrouver la présence, la matière, le temps long. Ce double mouvement dit quelque chose de fondamental. L'art n'est pas là pour commenter le monde à distance, mais pour y prendre part. C'est aussi pour cela que je me méfie des œuvres qui interrogent le marché avec cynisme ou ironie. Cette posture, souvent présentée comme critique, me semble surtout refermée sur elle-même. Le cynisme crée une complicité intellectuelle, mais rarement une ouverture. Or, l'art, pour moi, n'est pas un commentaire narquois sur ses propres conditions d'existence. Il est un geste adressé, une proposition de relation. Jamais autant de personnes n'ont créé qu'aujourd'hui. Écrire, composer, filmer, dessiner, monter, partager sont devenus des pratiques largement répandues. Cela transforme profondément la place de l'artiste. Non plus figure centrale ou producteur d'objets rares, mais passeur de formes, organisateur de perception, créateur de situation où quelque chose devient sensible, pensable, partageable. Le malaise actuel vient peut-être de ce décalage. Nous continuons à penser l'art comme une carrière, un statut, une reconnaissance, alors que ses formes d'existence se sont démultipliées. Il existe aujourd'hui 1000 manières d'être artiste sans vendre, sans produire pour un marché, sans se définir par une réussite mesurable. L'art n'est peut-être plus là où on l'attend, mais pour qui accepte de quitter le centre, il n'a jamais cessé d'être un lieu de transformation.
Oui, je pense qu'on a des... Bon, les deux textes peuvent se lire en parallèle, comme tu dis. Je pense qu'on n'est pas opposé sur... Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas opposé. Je pense qu'ici, la question, c'est pour moi cette illusion centrale qui, pour toi... on va en parler plus en détail, mais...
Oui.
Tu vois le marché comme quand même, et l'art contemporain comme le centre quand même. Moi, je vois que c'est une sorte d'illusion, parce que pour moi, ce n'est pas le lieu unique capable de dire la valeur de l'art, en fait, le marché. Parce que pour moi, le marché, il y a les institutions, là, les galeries, les musées, la critique. Et puis une grande absente aussi de ton texte, je pense, on en parlera après aussi, c'est le public. C'est ce truchement, ce triangle entre public, le marché, si on le veut, il faudra encore définir ce qu'est le marché,
ouais.
et les artistes, quoi.
Je suis assez d'accord. Mon texte a été publié dans Flux News, qui est une revue, on va dire, spécialisé dans l'art contemporain, et je m'adressais aux amateurs d'art contemporain, je m'adressais aux artistes qui ont cru en une certaine, libéralisation de l'art, et c'était effectivement un pied de nez, en fait. C'était, si tu veux, quelque chose qui m'était resté dans la tête depuis un certain temps, comme, enfin, je me suis pas vraiment intéressé immédiatement à l'art contemporain, enfin, soyons précis, l'art contemporain conceptuel, c'est-à-dire que l'idée prévaut sur la forme, sur le côté matériel et charnel de l'œuvre. Et plus je m'y intéressais, plus je trouvais évidemment la chose intéressante. Et surtout, j'y ai vu, dès le départ, une symétrie avec la création de du néolibéralisme marchand, en tout cas l'avènement de ce mode sociétal. Alors ici, c'est évident que mon texte, il était très centré, il était très localisé, et qu'il est on peut difficilement l'élargir à toutes pratiques artistiques. Maintenant, ce que je dis dans mon texte, et je le pense, c'est qu'il y a eu, peut-être, à dessein ou non, ça c'est difficile à dire, mais il y a eu une trahison, une réelle trahison. Et cette trahison, c'est celle de la spéculation artistique qui remplace justement, une certaine forme de marché plus direct, celui des galeries, parce que on parlait donc du public, le public qui rencontre l'art contemporain, c'est le public qui va dans les galeries, en fait ce sont les collectionneurs, petits ou grands, ceux qui veulent posséder de l'art à la maison, c'est quand même des gens qui passent par des médias, et il y a un relais, et ce relais était les galeries, puis selon moi, avec les abstractions financières qui ont grandi tout autant que les concepts, eh bien, il y a eu une espèce pas d'OPA, mais l'artiste, avec, pour ne citer que Jeff Koons ou Damien Hirst, sont les plus récents à l'heure actuelle, sont devenus des publicitaires et des publicitaires spéculateurs. C'est eux-mêmes qui, en salle de vente chez Christie's et Sotheby's, rachetaient leurs œuvres pour faire leurs cotes et puis ensuite les propulser de nouveau sur un marché qu'ils connaissaient. Donc, à ce moment-là, donc, comme ça a fait école, c'est entré dans les universités, au niveau théorique, dans les beaux-arts, dans les écoles d'art appliqué, etc. On a donc dit à tous les jeunes artistes que ce n'était pas important d'être un bon technicien, il suffisait juste d'avoir un concept et de le mettre en forme, quel que soit l'outil ou le médium qui va être utilisé pour que cette forme prenne existence. Et c'est mon constat de base. Et alors, je raccorde avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce système qui était progressiste, c'est la social-démocratie, tu le sais, Benjamin, tu es souvent en Angleterre. C'est un système de gauche progressiste, mais libéral. Hein, Nancy Fraser le dit très bien, notamment dans ses ouvrages, et plus précisément dans Le capitalisme est un cannibalisme. Où elle, y a pas qu'elle, hein, mais je prends cet auteur parce que je l'aime beaucoup. Elle sonne le glas de la social-démocratie. C'est-à-dire qu'on arrive à une phase autoritaire, voire dictatoriale de ce mode de fonctionnement, de ce système. Et ce système, qui devient plutôt, je dirais, réactionnaire et avec des tendances un peu traditionnalistes, ne sait pas quoi faire, des artistes qu'il a lui-même créés. Et donc, c'est en ça qu'il y a une trahison pour moi. Alors, je dirais pas qu'elle est pensée, je dirais pas qu'elle a été, en tout cas, mise en chantier consciemment, mais c'est ce que je pense.
Oui, moi, à contrario, je pense qu'il n'y a pas de trahison parce qu'il n'y a pas eu vraiment de promesse, en fait. Je pense que, surtout, je ne pense pas que l'art doive attendre quelque chose d'une promesse d'un marché. Et déjà, je pourrais peut-être revenir déjà sur ce qu'est le marché aussi, parce qu'on parle souvent du marché de l'art, mais j'avais un peu regardé les chiffres pour l'émission. Dans le marché, il y a le premier marché, hein, celui où les artistes vendent leur œuvre. Il y a le second marché aussi, où les œuvres sont déjà reconnues, sont revendues et spéculées. Il y a les galeries, il y a les foires, il y a les maisons de vente, il y a des collectionneurs, et il y a des plateformes numériques, tu le disais. Le numérique bouscule aussi énormément les choses, quoi. J'ai pris un peu les chiffres de Art Basel, UBS Art Market de 2026, qui analyse l'année 2025. Ben, il montre en fait qu'il y a un marché qui est en reprise modérée, mais très inégale. Ça, c'est un peu aussi ce que tu mettais à la loupe. En 2025, le marché mondial de l'art repart légèrement à la hausse, autour de 59,6 milliards de dollars. Mais cette reprise, comme tu le signalais, est très polarisée. Elle est tirée essentiellement par les enchères, par les États-Unis et surtout par les œuvres les plus chères. Cela ne signifie pas que la situation générale des artistes s'améliore, au contraire. Ces chiffres montrent un marché concentré, sélectif, dominé par le haut de gamme, pendant que les galeries, les artistes émergents, les segments intermédiaires restent fragiles. Les chiffres de 2025 donc, montrent que le marché de l'art n'est pas mort, il est concentré donc et assez conservateur. Il continue à valoriser les œuvres très établies, mais cela ne résout en rien la question de l'existence artistique ordinaire. Je pense que ça, c'est surtout lié par le fait que l'ère post-Covid a créé une financiarisation accrue, de manière générale, de l'économie. C'est-à-dire que l'argent qui a été imprimé, bah, d'une manière logique, il retombait dans des choses. Les gens qui avaient de l'argent diversifiaient plus que jamais les risques pour augmenter leur capital. Et ça, de manière générale, on le voit aussi dans l'industrie musicale, que je connais peut-être mieux, hein, parce que je ne suis pas historien de l'art, mais on voit vraiment que voilà, le marché, effectivement, quand on investit, c'est pour avoir beaucoup plus, c'est des outils financiers, avoir beaucoup plus de retours. Et donc, ça crée cette concentration-là. Mais ça, je pense que c'est un effet global de l'économie qui crée les déséquilibres qu'on connaît maintenant,
et qui n'est pas
à tous les niveaux.
Qui n'est pas spécifique au milieu de l'art contemporain ou dans les arts plastiques.
Bon, oui. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que la France a quand même une progression notable. Elle augmente de 9% pour arriver à 4,5 milliards de dollars en 2025. Donc, il y a quand même aussi des changements d'équilibre. Mais ça, je pense que voilà, c'est le levier financier qui s'y joue. Après, ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est la vente en ligne et les nouveaux acheteurs. Parce qu'on voit que la vente en ligne, contrairement à ce que certains pourraient penser, reste quand même important pour découvrir des nouvelles collections, etc. Il y a quand même 40% des ventes en ligne qui viennent de nouveaux acheteurs. Donc il y a un autre marché aussi, hein, quand on parle du marché, qui vient se greffer. Et ici, voilà, on peut voir que, par exemple, auprès des collectionneurs fortunés, 51% déclarent avoir acheté via Instagram.
Ah oui. Donc il y a un réseau alternatif qui va se créer.
Un réseau et des achats directs auprès d'artistes qui auraient plus que doublé. Donc voilà, on voit aussi que un certain nombre d'intermédiaires dans le marché est bousculé. Je vais prendre un exemple concret. Si un artiste, par exemple, a une communauté, comme c'est le cas pour des artistes musicaux ou autres fortes, c'est lui qui amène la valeur et donc les commissions que des galeries pourraient prendre où le système change, ouais. Puisque c'est lui-même qui amène la valeur des acheteurs, donc on a quand même un bouleversement aussi qui se fait dans les modes de vente. Quoi.
Ouais.
Donc là, c'est pour reprendre un petit peu...
Oui, bien sûr, tu as bien brossé le tableau du marché.
Mais pour moi, le marché, les artistes, ils y entrent et ils sortent. Ce n'est pas même dans l'art conceptuel contemporain, déjà, les œuvres se créent hors marché, mais ça arrive que souvent, dans la carrière dans le parcours d'un artiste, il rentre dans le marché, il sort, il a des pratiques plus diffuses, plus ouvertes.
Il
peut travailler aussi avec des institutions qui parfois ou d'autres des tiers lieux, etc. Donc c'est ça aussi que je voulais pointer, c'est que pour moi il n'y a plus de centre en fait, quoi.
Ouais.
Et donc ce que toi tu vois comme étant un point unique d'entrée qui aurait été une promesse faite aux artistes au marché, pour moi ce n'est plus qu'à évidemment ça génère de l'argent, on le voit, mais ça génère de l'argent parce qu'il y a une financiarisation vers des œuvres qui tirent le marché, les autres c'est diffus et donc
quand tu vois une atomisation du marché,
une fragmentation.
Comme il y a eu une atomisation de l'art, tu le dis aussi, l'art se retrouve partout. Alors moi, il y a un petit essai de Yves Michaud, c'est un philosophe que mon patron Lino Pollegato adore, qu'il a déjà interviewé, qui s'appelle « L'art à l'état gazeux » et qui explique ceci. C'est-à-dire que l'art est effectivement, comme tu as dit, fragmenté, atomisé, et qu'il se retrouve partout, dans le design, dans les objets, dans le textile. Enfin,
même dans les discussions entre les gens.
Exactement, oui, tout à fait. Il y a une esthétisation du monde qui, selon lui, n'est pas souhaitable. Hein. Donc ça aussi, il faudrait se positionner, alors, pas moralement, mais en tout cas peut-être, je sais pas, éthiquement ou métaphysiquement par rapport à ça. Toi, tu sembles dire que c'est peut-être une bonne chose, qu'il y ait une atomisation du marché, une atomisation de l'art.
Moi, ce que je pense qui est une bonne chose, c'est qu'en 2026, les pratiques artistiques auprès du public...
Ouais.
Que ce soit, on va dire, par la présence du smartphone qui donne déjà des outils. Hein. Par exemple, avant, personne ne savait faire du montage ou n'avait conscience qu'il y avait une ligne du temps. Maintenant, tout qui fait des vidéos ou de la photo, etc., comprend la logique déjà de fabrication. Il y a aussi d'énormes des ateliers partout. Les gens ont une pratique artistique, qu'elle soit musicale, soit de la céramique, que soit du collage, de la peinture. Il y a beaucoup plus forte. Donc, où est la place de l'artiste ? On en parlera plus tard aussi.
C'est ça, c'était ma question. Mais gardons-la effectivement pour plus tard
parce que c'est intéressant de voir.
Tout à fait.
Et dans ce monde qui se transforme, je pense que la relation du public, qui lui-même, je ne dirais pas artiste, on n'est pas ici pour juger moralement, mais les pratiques changent, etc., fait que tout ça change aussi, quoi. Il y a aussi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le rapport au numérique, on le voit, rend quand même quelque part un peu les gens malades. On sent une envie de coupure.
On en a déjà parlé.
On en a déjà parlé. Ouais, ouais. En tout cas, d'un retour, et ça, on le voit vraiment dans les pays anglo-saxons. J'ai d'ailleurs fait une exposition à Liverpool qui s'appelait Analogue.
C'est
parce qu'il y a aussi un vrai courant qui s'appelle Analogue, en fait, hein, qui est des soirées ou des moments de coupure où les gens créent ensemble. Discute, je sais pas, il y a des ateliers de toutes sortes.
Hein. C'est une déconnexion totale. Un retour au concret, au charnel, quoi.
Au charnel, mais aussi à l'artisanat et à l'art.
Oui.
Via l'art et l'artisanat. Donc, je pense que dans le monde qu'on est, un monde de faux, d'outils numérisés où on ne sait plus dire de plus en plus ce qui est vrai ou faux, les gens ont besoin de ça. Et c'est par l'art, dans le sens le plus large, qui se reconnecte.
Ouais.
Ça, je trouve ça plutôt bien, quoi.
Ouais.
Et ça va de pair avec ce mouvement qui, à mon sens, fait que l'artiste n'a plus la même place. Mais ça, on garde ça plus tard. Mais...
Est-ce que là, Benjamin, on va un peu quitter le fil, parce que je rebondis sur ce que tu viens de dire, est-ce qu'on n'est pas justement dans cette idée, je dirais pas réactionnaire, mais en tout cas, est-ce qu'on ne fait pas, en retournant au réel, au vu de ce que tu disais, de cette espèce de saturation de virtuel, est-ce que nous ne sommes pas en train de faire le jeu du système, justement ? Car, dans ma thèse, le néolibéralisme qui devient autoritaire, alors certes, il veut, quelque part, des artistes qui ne sont plus ces progressistes décrètent la subversion, c'est certains thèmes qui reviennent à chaque fois, le féminisme, une certaine appartenance ethnique pour l'exaltation des racines, tout ce qu'on a appelé évidemment à un moment donné sans y mettre vraiment de connotation politique derrière le wokisme, donc vraiment une espèce de révolution de gauche comme ça, et qui sont les sujets principaux à l'heure actuelle de l'art contemporain. C'est ce qui est mis en avant dans les créations à l'heure actuelle principalement et majoritairement, et ça, moi, je crois, Benjamin, tu vois, que, je vais pas généraliser, mais en tout cas, le système capitaliste qui devient autoritaire et dictatorial n'en veut plus. On voit avec, c'est pas évidemment un modèle, mais en tout cas, avec l'Amérique trumpiste, quand on voit l'artiste ou les artistes que Donald Trump met en avant, sponsorise, et quand on voit les institutions qu'il ferme, etc., ce sont justement des artistes qui sont dans le réel, dans le concret, qui font... Il y a une espèce de retour à une forme de plasticité traditionnelle, quoi. On l'a vu, alors sans vouloir faire non plus d'amalgame, je dirais, malheureux, mais on l'a vu avec l'Allemagne nazie, avec Ziegler, c'est-à-dire que toute tentative un peu... subversive et toute audace artistique est remplacée par quelque chose de concret, de matériel, de bienfait, de monumental. Enfin, ce sont des critères qui reviennent. Donc, est-ce qu'on n'est pas ici un peu coincé dans cette équation ?
Moi, je ne pense pas. Je pense que le capitalisme, on va dire dans la manière la plus large, a toujours eu cette tendance à récupérer et à englober toute idée, quelle qu'elle soit, puisque c'est économique, on va dire. Tu le vois d'ailleurs. Hein, on pourrait prendre une machine de médias comme Instagram, si on prend celle-là. Toutes sortes de contenus circulent, y compris des contenus qui ne vont pas toujours dans le sens du capital. On y découvre aussi la machine, je dirais, le système agurgite toute nouvelle idée du moment où elle peut continuer à produire, etc.
Je le citais d'ailleurs, c'est Boltanski, Luc et Eve Schiapello, le nouvel esprit du capitalisme qui explique donc qu'il y a une digestion de la critique et de la subversion pour se renforcer lui-même.
Après, c'est vrai que dans un monde actuel... fragmenté et polarisé comme on le voit. J'aime pas utiliser ce mot polarisé parce que ça veut tout dire et rien dire, mais on voit effectivement qu'on est obligé quand même, l'art est quand même idéologique aussi, ça, obligé de prendre position quand même dans le monde dans lequel on est. On ne peut plus, à l'heure actuelle, rester
Comme Wim Wenders, c'est un mauvais move de dire que l'art n'est pas politique.
Ce n'est plus possible à l'heure actuelle, vu les tensions, le monde en changement. Donc voilà, il y a aussi cette idée-là derrière qui est d'être inscrit dans le monde en mouvement, qui est en mouvement. Et donc, il faut choisir quelque part, je ne vais pas choisir son camp, parce que c'est moi je vais dire ça, mais il faut quand même quelque part
se positionner.
Ouais. On n'a pas le choix. Quelqu'un qui crée va se positionner, inévitablement. Alors, on le voit. Je ne pense pas qu'il y ait un retour, pour répondre à la question, à cet art beau, bien fait, etc. Ça, je crois que ça peut donner cette impression-là, parce qu'effectivement, des conservateurs rétrogrades vont plutôt pousser cette idée que... Mais je crois que dans le public, il y a quand même toute l'histoire de l'art qui est là. Ça a quand même parasité, phagocyté la culture populaire. Et que le veuillent ou non ces gens, il y a toute des choses qui rejaillissent et on n'est plus là-dedans. Alors on va peut-être revoir des courants comme ça de choses. Et puis, cette ingéniosité, on en parlera après, la machine peut le faire facilement. Donc quel intérêt encore de... Si une machine peut générer du beau et des beaux-arts, je dirais entre guillemets, en
c'est ça.
Nous,
avec Alain dans notre émission, Regard, on a constaté depuis maintenant quelques années qu'il y a un retour du figuratif, mais un vrai retour, quoi, un retour en force, même dans le milieu de l'art contemporain. Et moi, j'ai plutôt tendance à me rendre compte que les artistes qui aujourd'hui ont des soucis, les artistes émergents, quoi, en tout cas ceux qui sortent des académies, on a déjà eu aussi cette discussion. Oui. Hein, n'y a-t-il pas aussi trop d'artistes? C'est encore une autre question. Mais ont plus de difficultés à, se faire une place ou même simplement vivre dignement avec les caractéristiques de l'art contemporain. C'est-à-dire, on va peut-être y aller maintenant, comme tu l'as dit si bien dans ton texte, une espèce de cynisme, mais assumé, c'est-à-dire une méta-réflexion, c'est ce que je disais dans mon introduction, une espèce de néo-pop-art où il faut... parler du système dans lequel on évolue, tout en le combattant, mais tout en le validant simultanément. C'est Maurizio Catalán, hein, bon, on va le citer, avec sa banane. Il doit bien rire, d'ailleurs, oui. Hein, avec sa banane à 6 millions. Plus localement, hein, on peut parler de Jacques Lizaine aussi, hein, là aussi. Oui. Alors même s'il y avait une dimension plus kamikaze, là derrière, et moins cynique, parce que c'était, je pense que chez Lizaine, c'était vraiment de l'anarchisme pur et dur qui a été après, voilà, bien dirigé et récupéré, etc. Les situationnistes aussi. Bon. J'ai vraiment l'impression que ça ne fait plus bon ménage, alors que ça l'a fait énormément à un moment donné.
Tout à fait, oui, tout à fait. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais bon, ceci dit, il y a eu des œuvres qui critiquaient Fischlian Weiss, il y a eu des grandes pièces aussi d'œuvres. Donc voilà, c'est une redite aussi. Et donc, à un moment donné, comme tout, c'est une question de balancier. Si on a tout le temps ce mécanisme-là, à un moment donné, les gens en ont un peu marre aussi. Ouais, ouais. On va parler de l'artiste, mais on pourrait parler de l'œuvre aussi. Et moi, je pense aussi que c'est important aussi, c'est de revenir sur l'œuvre. Qu'est-ce que l'œuvre... En fait, la vraie question pour moi maintenant, plutôt que tout ça, c'est qu'est-ce que l'œuvre rend possible comme expérience, en fait. Et quand je vois un petit peu le public, parce que moi, je suis quelqu'un donc, qui ne vient pas de ce monde de l'art contemporain, qui ne vient pas des écoles, etc. Donc moi, je suis toujours quand même en lien d'abord avec le public, le territoire et le public. Le lieu, c'est quand même des choses qui m'intéressent. Et je trouve que cette expérience, pour moi, c'est quand l'œuvre, enfin, je la synthétise comme ça, quand elle ouvre une perception, une relation, un trouble, une présence. Je pense que c'est ça qui intéresse. Ou est-ce que c'est une œuvre qui se contente de commenter sa proposition dans le système de l'art? Moi, j'ai l'impression que ça, c'est un peu dépassé, en fait. Et que ce que les gens recherchent, c'est une expérience, en fait, par rapport à l'œuvre, parce qu'inondé d'images en permanence, de flux d'images, de choses. Quand ils sont face à une œuvre, c'est ça qui est 2026, ce que le public.
Donc toi, tu penses que le commentaire, disruptif ou faussement disruptif d'un système n'intéresse plus personne.
Non, il est englobé directement dans le système et donc voilà, c'est presque devenu une marque, un label et du marketing, ce que tu disais tout à l'heure. Quoi. Moi, je crois quand même que je ne crois pas un retour à ce côté réactionnaire de la beauté, de la virtuosité. Ça, je ne crois pas parce que les machines. Peuvent le faire, voilà. Ouais. Mais je crois quand même qu'il faut retrouver un peu dans les pratiques, dans les œuvres, de l'adresse, du sensible, du temps et aussi de la présence aussi. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et je trouve que le cynisme et la critique offrent une posture assez confortable dans le monde dans lequel on est. J'aurais peut-être pas tenu ce propos-là il y a 10 ans,
ouais.
mais je trouve qu'en fonction de ce qui se passe politiquement, je trouve que c'est assez facile comme place. Ouais. C'est-à-dire l'artiste qui serait au-dessus de la mêlée.
Oui, c'est ça. Ouais.
Cette posture de dire oui, bon, le marché. Alors, toi qui en es incorporé aussi, je trouve que c'est assez, une posture assez confortable. Quoi.
Mais alors, comment est-ce qu'on distingue les artistes de ceux qui ne le sont pas ? Est-ce qu'il y a encore une distinction à faire dans ce que tu dis ? Comme tu dis, tout le monde crée, tout le monde peut avoir accès avec Edit à un logiciel de montage intégré sur son téléphone. Tout le monde, avec l'intelligence artificielle, peut faire de la musique très facilement. Là, j'ai essayé, je peux même, à la limite, avec 2 ou 3 années de plus, parce qu'il y a des petits problèmes techniques, mais qui vont être très vite résolus, je peux même faire un jeu vidéo tout seul, j'ai vu, avec ChatGPT.
Ou une application toi-même.
C'est tout à fait possible. Oui. Donc, comment est-ce qu'on distingue alors, allez, je vais y aller, je vais énerver des gens, mais je vais quand même le dire, les vrais artistes de ceux qui essaient d'en être ? Est-ce qu'il y a une distinction, tu vois ?
Ben, moi, je pense déjà que la place de l'artiste, elle a profondément changé. Ceux qui ne veulent pas voir ça, c'est peut-être les artistes qui ouais. vont être vraiment, vont avoir un choc là sur le... Un coup de massue sur la tête. Il y en a pas mal, ceux qui n'ont pas upgradé ça. Parce que pour moi, l'artiste, déjà, il n'a plus cette figure centrale placée sur un piédestal, ouais. séparée du monde, ouais, protégée ouais. par un aura presque sacré. Hein,
ouais,
une aura,
ouais.
pardon.
Moi, je vais la défendre, moi, cette aura.
Oui, ça, je ne doute bien que ton côté conservateur
va ressortir. Non.
Ben, pendant longtemps, on a entretenu cette mythologie de l'artiste comme exception, le génie ouais. solitaire, hein, j'avais noté l'être à part, parfois même celui qu'on pardonne au nom de toute son œuvre. Ouais. Pour moi, cette posture, elle est intenable, elle est remise en question. Notamment par les mutations sociales. On voit beaucoup de mouvements ici, mais les transformations des publics aussi, hein, qui s'en foutent quelque part maintenant, parce que le public est connecté, il se fout un peu de ça. Mais aussi des mouvements comme MeToo, qui ont quand même profondément changé la société. Alors, je sais que les mouvements woke, féministes, ça peuvent poser des questions, on en parlait au début, mais quand même, ça remet complètement à plat les rapports de pouvoir, les abus de position, les formes de domination, d'impunité aussi qui pouvaient être dissimulées derrière ces postures. Hein.
Oui.
On pourrait dire, penser à Patrick Bruel.
C'est vrai, c'est une petite pensée qui est toujours, malgré le cancel, le présumé innocent. Voilà, ouais.
voilà. Après, pour moi, ça ne signifie pas qu'il faut affaiblir la singularité de l'artiste, parce qu'il y a toujours, ou nier la puissance du neuf. Il y aura toujours, je pense, quand même, des artistes qui créent des choses et qui renvoient à quelque chose.
Mais comment on les distingue alors ? Quoi, c'est le public qui va décider ? Vu que, disons, ce caractère absolutiste de l'artiste, André Gide, il disait que c'était quelqu'un qui était branché sur Dieu. Voilà. Alors qu'il n'était pas particulièrement déiste. Mm-hmm. Je sais pas, moi, quelqu'un comme... Alors là, je vais aller carrément chercher dans mes auteurs catholiques du début du XXe, que j'adore, Léon Blois et Bernanos, eux disaient que c'était une prolongation de l'acte mm-hmm. créateur. Donc il y a vraiment quelque chose, au-delà même de transcendant, même parfois de mystique. Alors, allez, pour te faire plaisir, pour donner un anglo-saxon, Philip K. Dick disait que c'était un prescient, mm-hmm. pour citer des personnages de Minority Report, un artiste, c'est quelqu'un qui voyait le futur comme un oracle, etc. Donc, est-ce que tout le monde est capable d'accéder à cet état de conscience qui est celui, avec le recul, hein, et la postérité, mm-hmm. qui, selon moi, est un critère de sélection, hein, pour.
Oui, c'est intéressant. Je dis peut-être que des artistes vont devenir de nouveau des messies, hein, c'est possible aussi. Enfin, certains vont avoir cette... mais je pense quand même, ça va un peu emmerder beaucoup de gens, d'artistes qui écoutent peut-être ce podcast.
On les salue.
Voilà, pour moi, ça a profondément changé. Je pense que l'artiste n'est plus au centre, comme je disais, comme une figure sacrée.
C'est ça.
Mais il est un poids de relation, en fait. Et donc ça va emmerder beaucoup de gens, parce qu'ils vont dire, oh merde.
C'est quelqu'un faut aller vers les autres, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ouais. quelqu'un qui va organiser les perceptions, qui va créer des situations, qui va transmettre des formes, qui va travailler avec des publics, des lieux, des communautés, des techniques et surtout des imaginaires, quoi. Quelque chose que beaucoup d'artistes n'ont pas, ouais. N'ont pas envie d'entendre ou de comprendre. Et c'est vers là que le travail, je pense, va aller. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce double mouvement. C'est-à-dire que d'un côté, le numérique permet une circulation immense des formes. Moi, je l'utilise beaucoup, par exemple, pour envoyer des images, etc. D'un côté, il crée aussi de la saturation et de la visibilité, ça c'est un fait certain, mais c'est pour ça qu'en même temps, en créant des formes digitales, il faut revenir à une nécessité du physique, Et donc, le concert, l'exposition, le vinyle, le livre, la visite, le lieu où le corps se retrouve, les podcasts, pour moi aussi.
Oui, c'est vrai.
On est en train de créer quelque chose aussi
avec nos sens.
Voilà, on crée sans centre, en fait. On crée sans lieu, mais on multiplie les lieux. Quoi.
Ouais.
Et les poids. Et ça, c'est nouveau.
Ouais.
Enfin, moi, ça fait c'est un peu logique dans ma pratique. Donc, je défends aussi ce qui, moi, me semble être
un bout de gras. Ouais, voilà.
Mais je pense que les artistes doivent évoluer aussi dans des paysages qui sont éclatés. Quoi. Et avant de pouvoir être identifié des grands lieux de légitimation, hein, comme avant, les institutions, les galeries, la presse, les maisons de disques, les programmateurs, les écoles, les musées, etc., ces lieux n'ont plus le monopole, quoi. Et donc tout ce système dont tu disais, qui est aussi un système enseigné dans les écoles, pour moi, est en train un peu de...
Donc les écoles ont un temps de retard, il faudrait quoi ? Il faudrait qu'on apprenne aux artistes, aux futurs artistes, hein, professionnels, vu que ça aussi, dans les écoles, on leur donne des cours de droit, on leur donne des cours de management maintenant. Pour moi, on les formate déjà pour entrer dans le marché de l'art. Alors, atomisé, certes, mais le marché de l'art quand même. Il faut prolonger ça, il faut pousser ça.
Ça, c'est toute la question des écoles, je veux dire, philosophiquement parlant. Est-ce qu'on fait d'une école un lieu qui doit absolument former des soldats pour l'économie, ou au contraire, une école artistique, elle se doit de réfléchir au monde, à créer du sensible, aussi à des perceptions. Ça, chaque école a ses modèles.
Ouais.
Moi, je pense que le plus juste, ce serait d'arriver vers des écoles comme ça, en tout cas dans ce qui concerne l'art, qui a un peu une réflexion sur les pratiques actuelles. Quoi.
Moins
en silo aussi. On voit aussi dans beaucoup d'écoles un problème de transversalité. Alors ça, c'est un terme aussi qu'on a mis à toutes les sauces.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est quand même vrai. C'est-à-dire que...
L'artiste doit être transversal pour toi ? C'est quelqu'un qui doit savoir un peu...
Il n'a pas le choix. Il doit pouvoir, en tout cas, sur les...
Je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que l'artiste, c'est un artiste. Et quel que soit l'outil qu'il va utiliser, il pratique... son art. Alors, il n'est pas obligé, selon moi, de maîtriser tous les outils, mais effectivement, dans ce sens-là, la pluridisciplinarité ou la transdisciplinarité, pour citer notre amie Sophie Van Gogh, je trouve que c'est plutôt quelque chose de non seulement de salutaire, mais de vrai. C'est on va pas obliger les artistes à faire plein de choses, mais c'est une tendance. Hein. On a des artistes
maintenant.
C'est
une tendance du monde,
généralement. Pluridisciplinaire, c'est ça.
C'est ça. Et puis j'entends comme tu disais que ce marché, hein, toi tu prends le centre du marché, crée des artistes entrepreneurs. Moi, je n'ai pas le thème exact pour ça. Je dirais plutôt des artistes outillés, en fait.
Je reprends le terme à Thibaut Wauthier. Hein, je tiens à le citer.
Oui.
C'est lui qui défendait ça. Il n'est pas le seul. Et moi, je suis dubitatif quant à cette posture, en fait. Hein. C'est faire le jeu d'un système qui, pour moi, est destructeur. Alors, on parlait de position et de prise de position et de situation. Moi, je suis clairement un ennemi du capitalisme marchand. Et d'autant plus... vu la tournure qu'il est en train de prendre, vu le masque, ou en tout cas la mutation qu'il opère, surtout.
C'est cela aussi, on est différent. Moi, je ne suis pas un ennemi, parce que quelque part, je m'en fous un peu, je veux dire. Pour moi, ce n'est pas le centre. Tu vois,
c'est ça. Mais est-ce que tu penses que tu arrives à y échapper, malgré tout, Benjamin ?
Alors, aucun artiste ne crée hors économie. Ça, c'est un leurre, ça.
C'était
hors institution et hors dépendance.
C'était ma question suivante.
Oui, tout à fait.
Tu as un modèle économique, toi, qui est viable. Enfin, qui a fonctionné. Ça fait 28 ans que crées en autodidacte et que tu arrives à subsister, etc. Mais comment as-tu fait pour justement échapper alors ? Ça m'intéresse.
Alors, je pense que, tu vois, on dit souvent, c'est un artiste entrepreneur, je reviens avec ce terme, moi, je ne pense pas vraiment. Je pense que je serais plutôt artiste outillé, dans le sens où j'ai pris à bras-le-corps assez vite les outils, étant autodidacte, évidemment, étant moi dans cette posture les écoles formatent aussi à avoir des pratiques, pratiques. Moi, j'ai mon imagination, mon monde que j'ai envie, enfin, des choses que j'ai envie de faire apparaître, développer, et je cherche les outils. Puis j'ai une curiosité aussi par rapport aux transformations du monde. Moi, j'ai grandi avec toujours de la VHS jusqu'à le Web 1, le Web 3, puis l'intelligence artificielle.
T'as un côté nerd quand même un peu.
J'ai un petit côté intrigué, intéressé, et en même temps, j'essaie toujours de réfléchir un peu de manière prospective. C'est un truc que j'aime bien, moi, ça, c'est de me dire, dans 2-3 ans, où est-ce qu'on sera, voire dans 10-15 ans. Alors, souvent, je me trompe. Parfois, j'ai eu des choses où je me suis dit, finalement, on y est. Mais c'est intéressant pour mon travail aussi, et pour me dire, je dois élargir le champ, etc.
Ouais.
Je pense que j'avais été formé par une école, et c'est très bien, hein, il faut des écoles et tout, mais je n'aurais pas peut-être cette
Trop cadenassé, oui, trop formaté dès le départ, quelque part.
Je parle trop formaté pour cette place qu'est le marché, comme tu disais. Enfin, ouais, certaines écoles, c'est ça, quoi. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est ça qui m'a permis, quelque part, d'avoir, d'ouvrir un petit peu les choses et de sentir un peu les... pas les tendances, mais... Et là, je sens vraiment qu'on est dans un moment où, que ce soit à ma place en tant que musicien ou plasticien, on est dans un retour vraiment à quelque chose d'analogique qui mélange un peu tout ça, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement digital, mais c'est comme une vague comme ça en permanence pour aller vers les gens, quoi.
Tu parlais de prospective et d'analyse de l'époque, hein, voilà, une tentative de comprendre le monde dans lequel on est par rapport à des données. Et justement, j'aimerais te poser cette question. Est-ce qu'un artiste de 25 ans qui commence aujourd'hui dispose réellement des mêmes conditions que lorsque toi, tu as commencé ? Est-ce que tu ne crois pas que voilà, il y avait un âge d'or qui, ici, est, au vu de cette saturation du marché, saturation des images, saturation des œuvres, indistinction des statuts, comme on l'a dit, tout le monde peut être artiste, et avec cette idée de l'économie de marché qui se durcit, est-ce que tu penses que c'est pas plus difficile aujourd'hui ?
Non, ça je le pense pas. Après, il y a des difficultés nouvelles. Je pense que... au niveau de la production, c'est plus facile, entre guillemets. Enfin, on a plus d'outils accessibles, c'est plus démocratisé quand même. Donc, entre l'idée et la réalisation, il y a quand même une facilité, en tout cas, de mettre en forme les choses. Sur la diffusion, il y a effectivement peut-être ce flux qui crée, mais il y a quand même d'autres possibilités. Je donne un exemple avant, que ce soit de la musique, si on avait un support physique ou une peinture, elle n'existait que où elle était distribuée, etc. Maintenant, elle est trouvable un peu partout.
Est-ce que c'est justement pas la rareté qui fait, à un moment donné, que intervient l'intérêt, le caractère précieux ? Est-ce que c'est pas...
C'est la question de la valeur, effectivement.
Exactement.
Ouais. Voilà, la valeur. Sur lequel je suis inquiet, je te rejoins dans ton texte, c'est la précarisation des gens maintenant. Mais ça, ce n'est pas que les artistes.
Non, c'est vrai que
c'est plus, il y a un mouvement global que le digital a créé, en fait. Ouais. Parce qu'effectivement, en ouvrant les vannes et en trouvant justement des îlots où on pouvait aller générer de l'argent, le digital a créé du flux. Et donc, ça crée une précarisation, effectivement. Donc, c'est paradoxal parce qu'on augmente la diffusion.
Bien sûr, exactement.
Et en même temps, certains ont plus difficile à vivre.
Et est-ce que, c'est une idée, est-ce que justement, alors peut-être pas une sacralisation, mais est-ce que la conservation du particularisme de l'artiste, c'est-à-dire de la distinction de l'artiste, ne serait pas quelque part un effet pour pallier à cette dispersion ?
Oui, c'est possible. Après, moi, je pense qu'il faut aussi distinguer économie et marché. Hein. C'est-à-dire que l'économie de l'art, ça ne se réduit pas uniquement à la vente. Hein, parce que là, si on parle vraiment, il y a l'économie publique, il y a quand même les subventions, hein, même si on sait qu'elles sont quand même souvent rabotées.
Là, maintenant, mal.
Il y a les résidences, il y a les commandes, et la monétisation digitale aussi qu'on oublie.
C'est vrai, c'est vrai.
D'artistes,
c'est vrai.
Et toutes ces monnaies qui n'en sont pas, qui sont les cryptos, etc. Enfin, il y a toute cette monétisation. Puis tu as aussi l'économie contributive, les collectifs. Tu as l'entraide aussi, tu as les scènes indépendantes, tu as l'économie relationnelle aussi, la fidélité d'un public, la médiation, la transmission, et puis tout ce qui est l'économie symbolique, la durée, l'influence, la mémoire. Alors, ce n'est peut-être pas une valeur, ça je peux prendre mon cas, la valeur de ce que je fais se crée au fur et à mesure aussi, en fonction de l'évolution des choses. C'est vrai que c'est une valeur moins quantifiable directement, mais tout
moins
ça...
Sécurisante, en fait.
Voilà.
Moins sécurisante.
Je pense que l'autonomie totale aussi pour un artiste, c'est un mythe, ça n'a jamais existé, ça. Il y en a peut-être qui vont dire, dans le temps, enfin, tu vois, il y a...
Oui, oui, oui. Les maudits, pour la bohème, vraiment, les sacrifiés. D'ailleurs, est-ce que tu ne crois pas que ce type de système, celui qu'on décrit et qu'on va, pour finir, qu'on va prospecter, on va aussi parler de l'avenir, c'est intéressant, est-ce que tu ne crois pas que ce système tue aussi les maudits, la bohème, les délirants, tu vois, vraiment ceux qui les jusqu'au boutistes, tu vois, les Van Gogh, enfin, bon, il y en a d'autres, hein. Mais est-ce que ce système-là n'est pas destructeur pour ce type de profils d'artistes aussi, qui sont très intéressants.
Oui, si je pense aussi, oui, tout à fait. Mais ça, c'est encore une fois le rapport à l'artiste qui change. Mais c'est aussi maintenant que, puisqu'il faut vendre, donner de la valeur, comme toujours, si on prend du point de vue du marché, hein, ce qui est expliqué, donc les ventes aux enchères, les galeries, tout ce système-là, il faut du marketing. C'est ce que tu expliquais au début dans ton texte aussi. C'est-à-dire que les artistes doivent être aussi... ce sont des superstars, donc il faut leur raconter l'histoire.
Ouais.
C'est du storytelling.
Ouais, c'est ça.
Ce qui n'était pas le cas, je pense, réellement de ces personnes quand ils vivaient.
Non.
Mais comme le rêve prend des dimensions voilà, on crée un imaginaire, mais je pense que cet imaginaire-là est en train un peu de se casser la gueule quand même, quoi.
Ouais, ouais.
Parce qu'il y a des mouvements, justement, sociaux qui font que, bah voilà, l'artiste, bon. Là, on voit avec Picasso, il y a quand même des figures qui sont remises.
Est-ce que ça faisait pas le sel, tout simplement, de l'art aussi? Est-ce que cette légende, cette construction a posteriori, est-ce que ce roman artistique n'était pas nécessaire pour que ça reste sexy? C'est le problème aussi de l'horizontalité, tu vois, Benjamin. Si tout le monde sait tout faire, est-ce qu'on n'est pas en train, justement, de tuer le particularisme, le sel, la magie, le caractère un peu sensuel de la chose? Est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'harmonisation totale qui est, pour moi, un peu mortifère, quoi?
Peut-être, mais peut-être dans l'art contemporain, touche à ses limites, enfin la forme d'art contemporain telle qu'on peut le voir, touche peut-être à ses limites, quoique elle prend une dimension peut-être plus politique aussi maintenant. Justement, elle a peut-être que son rôle va être de cette forme dématérialisée du concept, mais d'être une force politique de levier contre une partie de l'obscurantisme dans le monde, parce que ça, c'est une réalité.
Donc réellement subversif.
Qu'une espèce de cynisme. Alors après, ouais, évidemment, sous le cadenas de la financiarisation du marché,
mais
ça s'explique.
C'est ça le problème. Ouais.
Mais bon, voilà, à côté de ça, je pense aussi qu'il y a l'œuvre. Bon, il y a les postures de certains artistes, etc., mais il y a quand même aussi
la qualité de l'œuvre. C'est
la nécessité profonde d'une œuvre, qu'est-ce qu'elle fait sans son public. Et je pense que pour la majorité des gens, c'est ça. Bon, ils peuvent être. C'est toujours là, on revient à ce vieux débat un peu qu'on entend souvent sur les radios, l'œuvre ou l'artiste. Enfin, faut-il distinguer.
Ouais.
Mais bon, il y a quand même la rencontre avec l'œuvre qui fait aussi la force, quoi.
Ah, ouais.
Un artiste, il existe quand même par ses œuvres et son rapport au public et ce que ça dit de l'époque aussi.
Je suis assez d'accord avec toi. La qualité de l'œuvre, quel que soit le système, perce tout, je pense. Si l'œuvre est importante, si elle est forte, belle, en adéquation ou pas, en avance aussi, hein, parfois sur son temps, elle traverse les plans de la réalité et elle est... Alors, c'est ça le problème aussi de la postérité, Benjamin. Je crois que c'est peut-être pas un retour sur investissement immédiat. C'est-à-dire que l'artiste peut crever de faim et va voir son œuvre à un moment donné mise au pinacle de peut-être de 20 ans, 30 ans, tout ça.
Ça, je pense que tu vois, justement, il n'y a pas de corrélation. C'est pour ça que je disais que le marché, on y rentre, on y sort, ce n'est pas le poids de sang. Ouais. Parce qu'on peut observer, moi j'ai été dans certains pays assez pauvres où il n'y a pas de marché. On voit même, par exemple, au Brésil, dans les favelas, des gens créent des communautés, créent des petites galeries eux-mêmes pour les gens de quartier, quoi. Ça n'a hors complètement du marché de l'art. Il y a des œuvres magnifiques. Sans doute qu'à un moment donné, ce marché va récupérer des choses là-bas et va le faire fructifier. Mais je veux dire, pour ça, pour moi, ce n'est qu'un poids d'entrée, je veux dire. Après, je pense aussi qu'il faut sortir de cette idée romantique de l'autonomie comme solitude aussi. Parce que ça, on inculque aux artistes que les artistes sont... L'artiste m'a dit, mais il faut être aussi seul pour créer. On ne dépend de rien, si ce n'est de son imagination, etc. C'est faux. Je veux dire, on est vraiment entré dans un mode et une monde des pratiques transversales. Et moi, je pense que ce n'est... Comment expliquer ça? C'est que l'artiste, il rentre, il sort, il circule dans des mondes, en fait. C'est ça que je voulais exprimer aussi par mon texte. Et plus par un seul poids qui pourrait être celui du marché de l'art conceptuel.
Oui, il va butiner.
Il peut aussi faire du podcast, il peut faire de l'édition, de la médiation, c'est déjà le cas en Fédération Unie Bruxelles, en fait. C'est ça qui est assez amusant, c'est de voir qu'on a eu des politiques qui pouvaient sembler complètement décalées dans une vague un peu, justement, de l'art conceptuel.
Ouais.
Mais en fait, il y a une tentative, par exemple, sous la ministre Lina Recolo, qui était une consultation aussi des acteurs qui s'appelait Un futur pour la culture, qui était cette idée de, justement, essayer de... Après, ça a été mal compris et mal mis en place.
Encore à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de débouché. Ça n'a pas débouché sur grand chose.
Non, parce qu'entre les idées, en fait, quand elles ne sont pas encore en mouvement, en flux, on peut danser sa tête. Si le politique doit les cadrer, c'est l'inverse qui doit être fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit venir des gens et puis.
Ouais, c'est
ça. Politique. Mais pas quand c'est le politique qui impose, ça ne va jamais vraiment.
Il faut que ce soit dans l'autre sens que ça fonctionne.
Je pense pour que les œuvres soient intéressantes et qu'il y ait une vraie volonté. Et voilà, mais je pense que voilà, il y a les œuvres, elles vivent, elles peuvent vivre dans différents lieux, différentes cultures.
Elles se sont transversalisées, c'est ça l'idée.
C'est ça.
Ouais, ouais. Tu as fait ma transition, on va finir avec l'avenir, le futur. Bah, on l'a peut-être un peu décrit déjà, l'avenir, donc toi tu crois véritablement que ça va être je vais le dire, parce que ça va faire rire mon réalisateur, mais je vais le dire, c'est ce caractère rhizomique de l'art, il va s'étendre comme ça en plusieurs points et tout va être relié, c'est ça, le futur de l'artiste, c'est Il va se démultiplier comme un monade leibnizien. Ce n'est plus du tout cette espèce d'oracle dans sa tour d'ivoire qui dit des vérités sur le monde. Ce serait ça pour toi, l'avenir de l'art, quelque part.
Alors, si on est un peu prospectif, il y aura, les choses vont être très fragmentées, il y aura différentes choses, hein, ça, des communautés aussi, je pense, artistiques, par nécessité aussi économique, comme tu le disais, de gens qui, à nouveau, vont se rassembler, faire des choses hors de ce que tu appelles le marché conceptuel, etc., mais qui vont exister aussi sous des formes...
C'est le retour des mouvements, peut-être ?
Peut-être des mouvements. Ah. Ça, je pense, ça arrivera. Parce que je le vois déjà dans des... Si je vais à Londres, moi, parfois, travailler avec des gens où j'ai pu exposer, je sens qu'il y a cette tendance-là, un peu, et autour du moment de l'analogie. C'est-à-dire que du moment aussi où l'œuvre, quelque part, elle est aussi digitalisée, peut être réalisée par une machine... Mmh. Qu'est-ce qui fait expérience, encore une fois, c'est le rapport public, artiste et lieu, ouais. Territoire. Et donc, on voit que c'est la collectivité, c'est la communauté qui est le moment, le temps présent qui, analogiquement, qui crée aussi ça. Je ne veux pas dire qu'après, c'est par les ça, il y a ce moment-là. Après, tu pourrais avoir aussi toute une série d'artistes pour le marché conceptuel qui vont, puisque la machine, maintenant, va pouvoir, ça, j'y crois vraiment, d'ici 10 ans, on n'a plus besoin d'artistes qui crée des choses, la machine peut le faire.
Ouais. Donc, l'IA forte,
voilà. Oui, je pense qu'on peut dire encore, oui, l'IA, maintenant, il faut quelqu'un qui le gère, etc. Ouais. À un moment donné, quand
autonomie, de la création.
Si l'énergie suit.
Mais c'est ça aussi.
Si tous des aspects technologiques, on voit que, par exemple, Musk veut envoyer les disques durs maintenant dans l'espace, pour les clouds. Ça peut être exponentiel, et à ce moment-là, on verra tout à fait des machines...
Singularité technologique, c'est quoi, 2050, tu es d'accord avec ça, c'est ce qui est prédit, enfin c'est...
Je suis d'accord, si ça se passe en tout cas, je pense que l'artiste...
Tu penses que c'est plausible, quoi.
C'est tout à fait plausible, oui, on le voit déjà en 3 ans, comme ça a évolué, les choses vont très vite en matière de création visuelle, musicale. Après, comment les gens utilisent ça et à quel titre, ça modifie avec l'humain. Mais je pense néanmoins que tu vas avoir des artistes qui seront plus marketés encore qu'avant. C'est-à-dire que c'est vraiment l'image et le concept de l'artiste et le flux qui va générer ce truc, puisque tout sera fait... je veux dire, c'est plus la texture, la fabrication même qui aura un impact, puisqu'elle sera faite... je pense, quoi, que ça va bouger.
Tu vois, regarde, moi, par exemple, l'avenir... Alors, c'est pas celui que j'imagine, c'est celui que je souhaite. Je souhaiterais quand même qu'on revienne... Alors, certes, à du charnel, mais avec... la dimension spirituelle et transcendantale qui appartient également, pour moi, au giron de l'art. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sera aligné physiquement et spirituellement, alors je ne parle pas théologiquement, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais qu'il y ait justement, qu'on envisage la création en dehors de toute donnée pragmatique au départ, qu'elle soit, logistique, matérielle, financière, réseautale, tout ce que tu veux, c'est là qu'à un moment donné, peut-être, on aura des distinctions dans la masse de ce qui va être produit. Et voire même que les gens vont se raccorder peut-être plus et vont revenir à de l'eau qui n'est pas empoisonnée. Alors, c'est très fort ce que je dis, mais quelque chose qui est bon, juste et vrai... la métaphore, je reprendrai la métaphore de Marc Edouard-Nab, quand le puits est empoisonné, les gens vont chercher de l'eau pure. Et ils peuvent même faire de longs chemins, attendre très longtemps avant de trouver quelque chose qu'ils sentent bon, vrai et juste pour eux. Et ce sera ça. Enfin, je souhaite que ce soit cela, l'avenir des créateurs authentiques. Tu vois, je reste quand même sur ma ligne.
Oui, oui. Moi, je pense que le monde va être fragmenté, donc il y aura des mouvements contraires en permanence, très vite, en fonction de ce qui se passe dans le monde.
Et pas de vérité, alors.
Pas vraiment de vérité. Ben, la vérité, où est-elle encore, dans un monde aussi qui se greffe en le réel. Enfin, on peut en parler beaucoup, le rapport au réel, etc. Quoi, ce qui se passe. Après, il y a un autre point aussi qui est, si on prend le circuit, c'est le problème de l'embourgeoisement des institutions aussi, qui n'a fait qu'augmenter et donc s'accaparer de ressources aussi, puisque pour maintenir cette politique, alors ils essaient évidemment, mais ils sont pris dans une logique aussi assez compliquée.
Autophagique.
Voilà, ouais. Avec une difficulté vraiment éditoriale. Alors, on fait appel à ce qu'on appellerait la tendance des curateurs. Et ça reste quand même aussi quelque chose qui est problématique pour le développement de...
Et tu vois mal l'art contemporain, enfin en tout cas le futur art contemporain s'ouvrir, ça marche pas. Les tentatives de faire des visites interactives, de transformer les installations en espèce de portique. Enfin, on a l'impression que c'est
des
jeux.
Moi, je crois pas. Moi,
ouais, t'y crois pas.
Je crois que c'est des
l'attractivité de l'art contemporain conceptuel. Non, t'y crois pas. Ça va rester hermétique, tu penses. Ouais.
Je pense que ce n'est pas un art qui est fait pour être spécialement ouvert déjà à la base. Je pense qu'il faut, c'est de nouveau un peu un art pas élitiste, mais il faut, comme les beaux-arts jadis, être initié.
Tout à fait.
Et ce n'est pas, on n'initie pas les gens en faisant des immersions sur les œuvres. C'est pas comme ça que se passe l'initiation. Donc si on veut initier le public, le grand public à cet art, ce qui est tout à fait possible, il faut lui expliquer, pas comme à des enfants, mais comme à des gens à qui on explique clairement les choses. Rentrer dedans, simplement. C'est comme apprendre à écrire une langue ou à parler une langue qu'on ne connaît pas. Il faut comprendre le...
Ouais.
C'est comme tout. Ça demande un peu de curiosité intellectuelle, quoi.
Et si... Bah, je te rejoins, en fait. Si, dans le futur, on est déjà en train de le faire, on délègue notre intelligence, donc avec l'intelligence artificielle, le cerveau, c'est plus ou moins comme un muscle, et donc, quand on ne l'utilise pas, il s'atrophie, le public ne sera peut-être même plus capable d'avoir cet insight mental qui fait que, voilà, on comprend le concept, vu que c'est un art qui est basé exclusivement sur la compréhension conceptuelle, faire des associations d'idées, etc. C'est un art qui est, en fait, je viens d'y penser à l'instant, il est peut-être quasi mort à l'avenir, cet art exclusivement conceptuel.
Ah, c'est possible, oui, c'est possible, mais ça, c'est les courants d'art qui changent avec les époques, et donc j'espère quand qu'on va arriver à quelque chose de nouveau et d'intéressant.
Est-ce que tu veux conclure ? Parce que là, on est, je pense qu'on a, on a bien discuté, on a brassé tous les points de notre discussion. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cet échange ?
Oui, je trouve que c'était très intéressant de confronter nos points de vue, qui se relaient quand même sur beaucoup de choses. Voilà.
J'allais dire, on n'est pas en opposition. Je pense que nos deux textes, ils peuvent fonctionner en parallèle, en fait. Hein. L'un ne s'oppose pas à l'autre.
Tout à fait. Moi, je pense aussi que, pour clôturer, je pourrais dire que... Ouais. Pour moi, le problème de l'art conceptuel, ce n'est pas d'avoir été conceptuel. Le problème, c'est quand le concept remplace l'expérience. Et ça, je pense que c'est quand même la force de ce qui arrive maintenant. Je ne crois pas aussi en l'opposition entre concept et matière. Je pense que toute œuvre matérielle porte une idée. Et toute œuvre conceptuelle a besoin d'un support, d'un contexte, d'un corps et d'un public. En tout cas, dans le monde digital tel qu'on est.
Ouais, donc on ne peut pas séparer l'un et l'autre.
Ouais, d'ailleurs, même à ce qui a été présenté à Venise cette année, il y a un retour aussi à la forme.
Oui, totalement.
Et dans toutes les expositions, on sent ce retour quand même sur les matériaux, sur le...
Au monumental, au gigantisme. Voilà.
Donc, je suis assez d'accord. C'est quand même lié aussi à l'aspect politique, mais aussi du monde, quoi.
Benjamin Scouz, je te remercie d'avoir été derrière mon micro et nous vous donnons rendez-vous lors d'un prochain numéro du podcast de Flux Audio. Merci à toutes et à tous.